Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Cela fait presque 6 mois que cela dure maintenant, 6 mois que la crise des urgences hospitalières a commencé en France et que les services se sont mis en grève les uns après les autres. Ils sont désormais 250 dans le mouvement qui a été reconduit hier. Il continue donc, malgré l'annonce lundi par la ministre de la Santé Agnès Buzyn, d'un plan de 750 millions d'euros sur 3 ans pour refonder les urgences, insuffisant pour les grévistes qui veulent des ouvertures de lits, des revalorisations salariales. Pourtant, cela semble être le dernier mot de l'exécutif qui ne prévoit pas d'autres mesures, selon la porte-parole du gouvernement. La crise des urgences peut-elle être stoppée? C'est la question du jour. Et pour en parler, 2 invités sont avec nous en studio. Gérald Kirzek, bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes médecin urgentiste à l'Hôtel Dieu à Paris, auteur de 101 conseils pour ne pas atterrir aux urgences, paru aux éditions Robert Laffont en 2014. Et Thomas Meynier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes député La République En Marche de la Charente, membre de la commission des affaires sociales, rapporteur de la loi santé et mission urgence. Le mouvement dure donc depuis 6 mois. Il concerne 250 services d'urgence. Est-ce que la situation peut encore empirer, Gérald Kirzek?
Mais non seulement elle peut encore empirer, mais elle est en train d'empirer. Ne serait-ce que ce matin, communiqué des anesthésistes réanimateurs qui soutiennent le mouvement, de la communauté des psychiatres également qui soutient le mouvement. C'est-à-dire que elle empire, elle s'enquiste aux urgences, mais on voit bien que le problème, il n'est pas qu'aux urgences, c'est la partie émergée de l'iceberg, et ce que nous vivons aux urgences, que vivent les paramédicaux, parce que c'est une grève paramédicale à l'origine, rejointe par les médecins, c'est ce que tous les médecins de l'hôpital vivent, mais au-delà de l'hôpital, c'est aussi la crise du système de santé. On voit bien que c'est entre l'amont, la médecine de ville qui ne va pas bien, l'aval, les lits d'hôpitaux qui manquent, le virage ambulatoire, qui est plutôt une sortie de route ambulatoire, avec des hôpitaux de proximité qui disparaissent depuis de nombreuses années, et tout ça se cristallise aux urgences et c'est en train de devenir extrêmement contagieux dans toutes les spécialités et même en médecine de ville.
Thomas Meynier, est-ce que vous êtes inquiet de cette situation ?
Bah, je partage le constat globalement d'un système parfaitement arrivé à bout de souffle du fait d'un manque de réforme depuis 20 ans et puis effectivement fermeture de lits itérative. Je crois que j'ai déjà eu l'occasion de le dire, on est arrivé au bout de cette logique là. C'est un constat qui ne date pas de 2 mois, de 6 mois, ni de 2 ans, qui est bien plus ancien que ça. C'est une colère qui aujourd'hui s'exprime assez fort, à laquelle je crois on répond notamment avec la loi santé qu'on a votée cet été, qui apporte une réforme structurelle et sur le moyen et long terme aux difficultés de notre système aujourd'hui. Et puis les mesures annoncées par Agnès Buzyn avant-hier, qui sont issues des premières préconisations de la mission que je mène avec le professeur Carli, vont dans ce sens pour apporter des mesures complémentaires. Après, globalement, la maladie est grave. Elle est grave parce qu'elle est devenue chronique depuis 20 ans. Comme n'importe quelle maladie, on peut pas la guérir en un claquement de doigts. Il va falloir un peu de temps, mais je crois vraiment qu'on va dans le bon sens.
Gérald Kirzek, que pensez-vous du plan présenté lundi par Agnès Buzyn? 750 millions d'euros sur 3 ans, ça semble lourd, en tout cas.
Oui, faut relativiser, parce que c'est 250 millions d'euros par an qui sont pris ailleurs dans une réserve, et donc on va débloquer cette réserve. Donc c'est pas de la création non plus, ou de l'argent qui est pris ex nihilo. Et il faut relativiser parce que c'est sur les 200 milliards des dépenses d'assurance maladie. Donc 200 milliards et 200 millions, on voit bien que finalement, c'est pas une goutte d'eau, mais quasiment. Mais surtout, ce qui est beaucoup plus inquiétant, c'est à quoi vont être utilisés ces 750 millions d'euros. Et quand on regarde, moi, il se trouve que hier dans le Figaro, j'ai pris la plume en me disant, c'est plus possible, il faut maintenant mettre sur le papier ce à quoi vont servir ces 750 millions d'euros. C'est pas un plan d'urgence, c'est plus un plan de com pour moi, avec des mesures qui sont, on réinvente l'eau chaude. Première attribution de ces 750 millions d'euros, 340 millions d'euros pour faire une plateforme de téléphonique pour répondre aux Français et aller leur donner un conseil médical ou leur envoyer une ambulance de réanimation ou bien les orienter vers leur médecin traitant. Pour moi, c'est le SAMU. Ça fait des années, pas que pour moi, pour tous les urgentistes, ça fait des années que ça existe. On pourrait renforcer un peu le SAMU, mais de là à nous faire croire que ça va révolutionner le système de santé et que ça coûte 340 millions d'euros, là, nous, nous, on a l'impression, et le collectif Interurgence l'a bien compris hier, parce qu'ils ont revoté la grève suite à cette mesure, qu'on se fout de la figure des gens, et en particulier des Français.
Alors, on va laisser répondre Thomas Meunier, parce que j'imagine qu'il ne partage pas tout à fait votre analyse.
Non, pas du tout. Moi, les propositions sont issues du travail que j'ai mené depuis 3 mois, d'arrache-pied, de nombreuses rencontres, de nombreux déplacements sur le terrain. Et on voit bien d'ailleurs, et ça, c'est une réponse à ce que les Français nous ont dit sur les ronds-points l'année dernière, dans les grands débats ensuite. On a des difficultés d'accès aux soins, on a beaucoup, pour beaucoup, de plus en plus de difficultés à avoir un médecin traitant, et quand on n'en a pas, on ne sait plus vers qui se tourner, et donc on finit par aller aux urgences parce qu'on n'a pas d'autre solution.
Numéro de téléphone va remplacer le médecin traitant.
Et finalement, je crois effectivement que c'est un accès, en tout cas, aux soins offerts, nouveaux, avec effectivement des urgentistes au téléphone, ça existe déjà, mais aussi avec des généralistes au bout du téléphone, avec des infirmiers au bout du téléphone, qui pourront donner des conseils, apporter des solutions, peut-être faxer une ordonnance à la pharmacie près de chez soi, organiser une consultation avec un médecin au plus près du territoire et, le cas échéant, quand c'est nécessaire, envoyer aux urgences. Mais c'est assurer à chacun une réponse sans avoir l'obligation, parce qu'il n'y a pas d'autre solution que d'aller aux urgences.
Pardon, mais pour tous nos auditeurs qui sont en France, mais aussi ailleurs, en France depuis des années, et je relisais la Haute Autorité de Santé qui régule, et la ministre était présidente de la Haute Autorité de Santé, donc elle connaît bien, en 2011, faisait l'état des lieux, et disait qu'il y avait la régulation du SAMU pour les urgences graves, et qu'il y a aussi la régulation de la permanence des soins, c'est-à-dire que vous avez au SAMU de Paris ou ailleurs en France un médecin régulateur urgentiste, mais aussi un médecin libéral, un médecin généraliste, qui répond déjà tous les jours, SAMU de France faxent des ordonnances dans les pharmacies. Donc je ne vois pas où est la nouveauté. C'est ça qui nous dérange.
Est-ce que, Thomas Meunier, vous vous inspirez un peu de l'exemple britannique du NHS où il y a un système comme ça de consultation à distance pour orienter un peu les malades? Vous inspirez?
J'ai regardé à l'international, l'Angleterre, le Danemark, d'autres pays, évidemment. Après, effectivement, le SAMU existe, les médecins généralistes sont en régulation le soir et le week-end, mais pas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et les plus grosses difficultés dans les services d'urgence, c'est aux horaires d'ouverture des cabinets. Et c'est là aussi que les Français ont de plus en plus de difficultés pour avoir un accès aux soins. Donc on apporte réellement une solution par ce service d'accès aux soins. Mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga des mesures, même si je crois que c'est assez fondamental d'annoncer qu'on crée quand même un nouveau service public. Oui.
Enfin, c'est la moitié des 750 millions d'euros quand même.
On a d'autres mesures pour aller en lien, améliorer le lien entre la médecine de ville et les urgences. J'étais encore juste avant de venir en plateau en audition avec les professionnels de la médecine de ville pour continuer le travail avec eux. D'autres mesures.
Moi, j'étais
pour
de garde
justement
et je peux vous expliquer
changer
que c'est
le financement
en train de craquer de partout.
Des services d'urgence. Et ensuite, faciliter le lien avec Laval en réouvrant des lits, parce que la ministre l'a encore dit ce matin. On réouvrira des lits là où c'est nécessaire en fonction des besoins territoire par territoire.
Vous le disiez, Gérald Kirsek, il y a des choses qui existent déjà, le SAMU, SOS médecin, les pompiers, est-ce que le but ce serait pas de réunifier tout ça, de coordonner tout ça?
Bien sûr, mais de toute façon, c'est déjà en réseau, c'est déjà soit sous le même toit. D'ailleurs, il y a certaines villes en France où il y a les pompiers, le 15,
ça veut dire que si vous appelez
libéraux,
le 18 ou le 15, des fois vous arrivez au même endroit.
De toute façon, ça arrive que ça soit au même endroit, et de toute façon, c'est au même endroit de manière virtuelle en réseau puisqu'il y a une obligation légale d'interconnexion. Mais heureusement, quand vous appelez les pompiers, ils peuvent vous passer le SAMU. La grosse difficulté avec cette plateforme unique, ça va être d'avoir des moyens derrière, des moyens de répondre au téléphone, de trouver des médecins qui acceptent, parce qu'on voit bien qu'il y a un gros problème d'attractivité des professions médicales ou paramédicales. C'est aussi ce que disent les urgentistes et les paramédicaux avec cette grève depuis 6 mois, en disant on n'est plus écouté, les conditions de travail sont extrêmement difficiles, les conditions de responsabilité médicale sont extrêmement difficiles. Vous ne trouvez plus de médecins régulateurs pour répondre au téléphone. Pourquoi ? Parce que vous vous rendez compte, la responsabilité de faire un diagnostic au téléphone, c'est extrêmement compliqué. On se rappelle de cette affaire dramatique de Naomi qui était décédée à Strasbourg avec le SAMU de Strasbourg. C'est un métier extrêmement difficile que de faire un diagnostic avec simplement la voix ou même avec de la vidéo. Ça ne changera pas le problème. Et voilà pourquoi la médecine, ça se fait avec des mains, ça se fait avec une auscultation. Et voilà pourquoi les gens se retrouvent aux urgences, parce que c'est là où il y a tous les moyens.
Thomas Meunier, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça?
Oui, après, on peut être dans les incantations et demander des postes et des postes et des postes. On peut demander des nombres de médecins en plus.
Non, je demande de l'attractivité, respecter les gens et de l'attractivité pour que les gens restent dans les carrières
médecins,
et ne partent pas de l'hôpital.
Les médecins, aujourd'hui, on n'en a pas en nombre assez suffisant. On a supprimé le numerus clausus dans la loi cet été pour
justement former davantage
de médecins.
C'est à échéance 10 ans, ça.
Oui, mais justement, si ça avait été
c'est
fait...
C'est 10 ans des études de médecine.
C'est 10 ans. Si ça avait été fait il y a 10, 20 ans, on n'en serait peut-être pas au problème qu'on se pose aujourd'hui.
Il faut arrêter de dire qu'on manque de médecins. pardon, mais on a une des densités médicales qui est forte. En Europe, notamment, on n'est pas dans les derniers. Deuxièmement, on est au pic. Alors, c'est vrai que ça va descendre avec des médecins qui vont partir à la retraite. Mais enfin, globalement, le vrai problème, c'est le problème de la répartition des médecins. Ils sont mal répartis entre le nord et le sud du pays. Ils sont mal répartis entre le système public et le système privé. Ils sont mal répartis dans les spécialités. Mais pourquoi il y a cette mauvaise répartition? Parce qu'encore une fois, il n'y a pas de flexibilité. Il n'y a pas de possibilité d'évoluer dans les carrières. Voilà pourquoi certains jeunes ne veulent plus aller dans certaines spécialités. La chirurgie qui était prestigieuse, les gens ne veulent plus y aller. La gériatrie qui est le parents pauvres, et on en parle avec la crise des urgences parce qu'il n'y a plus personne derrière pour s'occuper de nos personnes âgées, c'est parce que vous vous enfermez dans une carrière, et là, dans la loi santé, rien n'est prévu pour cette flexibilité, pour cette attractivité de carrière.
Thomas Meynier, ce problème de différents secteurs qui ne communiquent pas assez entre eux, public privé, médecine de ville, médecine hospitalière, urgence gériatrique, qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer cette situation?
Eh ben, on est en train d'y travailler, justement. Il y a eu beaucoup de concertations depuis 2 ans pour préparer la loi santé. Et là encore, tout l'été, j'ai passé mon temps à faire de la concertation, à rencontrer, à discuter. J'y étais encore tout à l'heure. Il faut casser les cloisons entre la ville et l'hôpital. Dans la loi santé, justement, on fait en sorte que de réinvestir dans les hôpitaux de proximité avec des médecins qui pourront avoir un exercice mixte entre la ville et l'hôpital. On a fléché d'ailleurs 400 postes de médecins pour cette activité mixte qui sont en train d'être pourvus. On essaie justement de moderniser le statut de praticien hospitalier, c'est-à-dire le statut de docteur à l'hôpital public. Les négociations sont en cours. Elles ont été ouvertes par la loi santé. On est en train de faire ce travail-là. Seulement, effectivement, ça prend un peu de temps.
Les urgentistes en grève expliquent très clairement qu'ils sont débordés, qu'ils récupèrent beaucoup de problèmes qui ne devrait pas, au fond. Gérald Kirzek, comment on fait pour les soulager?
C'est pas tout à fait vrai. Et quand la ministre dit il ne faut plus que les personnes âgées, par exemple, se retrouvent aux urgences parce qu'elles n'ont rien à y faire, pardon, mais tous les urgentistes vous disent le contraire. La bobologie, comme on dit, aux urgences, c'est très peu de malades. C'est 10 à 20% des flux. Et surtout, ça prend pas beaucoup de temps. Vous mettez un docteur à l'entrée, on ouvre la bouche du patient, c'est une angine, hop, il repart, il peut aller être réorienté chez son médecin traitant. Et c'est pas ça qui nous prend du temps. Ce qui prend du temps et ce qui va prendre de plus en plus de temps dans les années qui viennent, ce sont les personnes âgées polypathologiques. Il y a un peu le cœur, il y a un peu le poumon, il y a un peu les reins. Donc ces patients-là, bien sûr, les médecins généralistes ne peuvent plus les gérer à la maison ou dans leur cabinet, parce que vous croyez qu'ils font quoi, les généralistes? Quand j'entends la ministre qui dit on va renvoyer les personnes âgées chez leur généraliste, mais enfin, ils font déjà ce boulot, les médecins généralistes. Et s'ils passent le relais à l'hôpital, c'est qu'ils ne peuvent plus gérer à la maison ou dans le cabinet. Et voilà pourquoi ces patients se retrouvent aux urgences. Voilà pourquoi aussi on a besoin d'aval gériatrique ou de médecine générale à l'hôpital, de médecine polyvalente, parce que c'est pas une spécialité d'organes, c'est pas que le cœur qui va pas bien, c'est tout qui va pas bien. Et quand on regarde le vieillissement de la population, avec dans les 10-20 ans, on va avoir plus de 2 millions de personnes âgées dépendantes, bah ces gens-là, on ne peut plus les traiter à la maison, on ne pourra pas les traiter dans les EHPAD, et c'est pas la vidéosurveillance que la ministre propose qui va changer les choses, ou les liens vidéo entre le SAMU et les EHPAD. Il y a besoin de lits, de médecins et d'infirmières.
Thomas Meynier, est-ce que il faut peut-être communiquer. Alors c'est difficile à dire comme ça, vu de l'extérieur, d'expliquer davantage aux gens qu'il ne faut pas systématiquement avoir recours aux urgences. Est-ce qu'il y a une dimension comme ça?
Ça fait partie effectivement.
Parce qu'ils ont l'impression que c'est leur seul débouché, et qu'ils y ont droit d'ailleurs.
Actuellement, c'est la seule porte ouverte et la seule lumière allumée, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je blâme absolument pas les Français d'avoir recours aux urgences quand c'est la seule solution. Pour autant, il y a un peu plus que 20% des passages qui ne nécessitent pas le plateau technique des urgences. Ça prend quand même du temps de médecins urgentistes. Alors, je crois qu'il faut tout faire pour réorienter ces patients-là dans des filières tout à fait adaptées de médecine de ville avec des professionnels qui sont tout à fait compétents pour les prendre en charge. En revanche, pour ce qui est de la médecine gériatrique, effectivement, je pense qu'on a, pour nos personnes âgées, des améliorations à apporter. Je crois, contrairement à ce que vous dites, que la vidéo-assistante entre les régulations et les EHPAD est un vrai plus, et je l'ai vu, moi, à Poitiers, quand je suis allé sur place quand le SAMU est connecté à tous les EHPAD du département.
Juste après, vous nous détaillerez ce que c'est que cette vidéo assistance, mais finissez votre raisonnement.
Et je vois aussi qu'il faut aller plus loin dans la prise en charge de nos aînés. Alors on est en train, c'était le premier budget de la sécurité sociale voté après notre élection, d'installer des infirmiers de nuit dans les EHPAD. C'est moi, les premiers, 2 ans après, les premières infirmières arrivent dans ma circonscription en Charente. Et puis on va réouvrir des lits, donc vous voyez, on va être d'accord, de médecine polyvalente, de médecine gériatrique, parce que c'est là justement qu'on a des besoins.
Pardon, mais la vidéo communication entre les SAMU et les EHPAD, ça va améliorer le téléphone. D'ailleurs, très souvent c'est fait, puisqu'il y a des millions qui ont été mis dans les EHPAD avec la télémédecine qui est déjà en lien avec l'hôpital, etc. Mais moi, médecin régulateur au SAMU, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir la personne âgée par vidéo. Je vais voir qu'elle a, elle fait un œdème du poumon, qu'elle est en train de s'étouffer. Qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Mais il va falloir que j'envoie une ambulance et cette ambulance, elle va aller aux urgences. Donc, vous voyez bien que ça ne va pas résoudre le problème et ça ne va pas permettre de laisser la personne. Elle est malade, elle a besoin d'un hôpital.
Je peux aussi vous donner l'exemple inverse de la personne âgée qui tombe de son lit à 2h du matin, qui, de fait, actuellement est envoyée de façon quasiment systématique aux urgences. Avec la vidéo, on voit qu'il n'y a pas grand-chose, que la personne peut rester dans sa maison de retraite.
Oui, avec l'infirmière et le téléphone, on a aussi une professionnelle sur place. Mais on voit bien clairement que l'évolution démographique, le vieillissement de la population est inverse avec l'évolution des hôpitaux. On a voulu fermer des lits, et on a fermé des lits, on ferme des maternités de proximité, des hôpitaux de proximité, et ce sont ces structures de proximité. Vous parlez des gilets jaunes, mais les gens, ils se rendent bien compte que leurs impôts, ils n'ont pas le service en face. Ils n'ont plus leur hôpital de proximité. C'est une vraie demande d'avoir ce service public de proximité.
Est-ce que les difficultés sont d'autant plus fortes dans les déserts médicaux, effectivement?
Ah, les difficultés sont, c'est bien sûr dans les déserts médicaux que c'est le plus difficile. C'est justement pour ça qu'on a réinvesti dans la médecine de ville en demandant aux professionnels de s'organiser entre eux dans les communautés professionnelles. C'est justement pour ça qu'on réinvestit dans 500 hôpitaux de proximité. Ce sont des réformes qu'on vient de lancer là ces derniers mois, qui vont mettre un petit peu de temps à se mettre en œuvre, mais qu'on est en train de faire, qu'on a lancé.
Vous voulez que je vous prenne une métaphore médicale? C'est, vous faites une crise cardiaque, et là, on vous propose de revoir la manière dont vous mangez, on vous propose de la rééducation, mais on traite pas votre crise cardiaque.
Alors,
vous êtes en train de faire ça. Il y a
qu'est-ce
une crise cardiaque médicale actuellement, dans les urgences, et vous proposez des choses qui seront à moyen terme,
et
qui seront, à mon avis, qui seront extrêmement contre-productives. Quand vous proposez 50 maisons médicales de garde à la porte des hôpitaux, non seulement les malades, ils vont continuer à aller aux urgences, parce que faire
d'accord,
de la médecine d'urgence, il y a besoin d'un scanner et ça se fait pas dans une maison médicale. Mais par contre, vous allez vider l'hôpital des médecins, parce que les médecins, plutôt que d'être payés une misère à l'hôpital public, ils vont aller bosser dans la maison médicale de garde. Moi, je pense qu'il faut faire trois niveaux. Il y a le premier niveau qui est la médecine libérale ou des centres de santé, bref, de la médecine de premier recours. Et il faut à tout prix revaloriser, y compris financièrement. Payer 25 euros des médecins, c'est indécent pour des bac plus 10 ou bac plus 12. Donc il faut revaloriser et surtout offrir des possibilités de carrière, faire des mi-temps médecine générale, mi-temps médecine du travail.
Ça, c'est le niveau 1. C'est ce qui est derrière ces demandes d'augmentation, de revalorisation salariale, Thomas Meynier, des problèmes de perspective de carrière. Ça veut dire que, on sait, enfin, un médecin ou un paramédical autour,
et des passerelles,
ne sait pas où ce qui va devenir. Il n'y a pas de perspective pour lui.
Actuellement, il y a assez peu de perspectives. C'est pour ça qu'on essaie de moderniser le statut de médecin hospitalier pour justement favoriser l'exercice mixte, ce que disait le docteur Kierzek, entre la ville et l'hôpital. C'est pour ça qu'on est en train de développer des nouvelles formations, notamment pour les infirmiers des infirmiers de pratique avancée, qu'on crée le métier aux urgences. C'est pour ça qu'on est en train de revoir au niveau du ministère. Agnès Buzyn a lancé la révision des compétences des aides-soignants. Tout ça, justement, c'est fait pour répondre à la problématique que vous soulevez, pour redonner plus d'attractivité à tous les métiers de santé.
On perçoit ça plutôt comme, c'est le vieux principe de Machiavel, diviser pour mieux régner, d'opposer un peu les professions. Chacun doit être dans sa profession. Les infirmières pratiques avancées qui pourront, par exemple, prendre des tensions, suivre des malades chroniques ou aux urgences prescrire des radios, c'est pas elles qui vont les interpréter, les radios. Et donc, ça ne résoudra pas le problème des médecins. Je finis sur le niveau 1, la médecine libérale. Le niveau 2, qui est l'hôpital de proximité. Et ça, il faut vraiment à tout prix le développer. Et je suis rassuré si la ministre a la vision de développer ces hôpitaux de proximité, parce que moi, ce que je vois dans plein d'endroits en France, c'est qu'on est en train d'étrangler ces hôpitaux de proximité, de fermer les lits, de fermer les maternités et de détricoter cet hôpital au profit du niveau 3, qui est important, qui est l'hôpital ultra spécialisé. Mais le niveau 2, qui est le maillage territorial, qui était demandé par les gilets jaunes, avec la maternité de proximité, des urgences, de l'imagerie, un vrai hôpital, ça, c'est fondamental à maintenir et à développer.
Eh ben, ça tombe bien.
Thomas Meynier.
Ça tombe très bien, parce que c'est ce qu'on a fait dans la loi santé.
Merci beaucoup, merci à tous les deux, merci Gérald Kierzek, merci Thomas Meynier d'avoir participé à cette émission, merci à toute l'équipe du débat du jour, Florence Ponce à la coordination, Simon Carteret à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Valentin Vaner. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur RFI.fr et sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio rubrique émission. Vous pouvez aussi participer au débat sur les réseaux sociaux. Le prochain débat, c'est demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.